Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec les cofondatrices de Kuchten et on va dérouler un petit peu son histoire. Donc elle s'appelle Carole Benaroya et Stéphanie Eriksson. Bonjour.
Bonjour Adrien.
Bonjour Adrien.
Alors vous êtes deux, enfin on est trois aujourd'hui. Et j'adore faire des podcasts à trois de plus en plus, je trouve que c'est encore plus riche. Ma première question, c'est est-ce que vous pourriez vous présenter et revenir chacune de vous deux sur vos parcours personnels avant que vous soyez rencontrés et enfin avant la création de Kuchten. On commence par qui ?
Je commence.
Carole. C'est Carole qui parle, voilà.
Voilà, exactement. Alors, donc moi, je suis... Alors, je suis parisienne. Ouais. J'ai tout le temps, enfin, j'ai hormis 4 années où j'ai vécu à Londres, j'ai toujours vécu à Paris, plus précisément en fait au Vésinet, en banlieue parisienne, où ma meilleure amie était la cousine de Stéphanie, d'où notre amitié en fait. Donc, ma copine d'école, de beuverie, de sortie en boîte, etc., c'était la cousine germaine de Steph. Donc, nous nous sommes rencontrés grâce à elle. Donc, Stéphanie, c'est vraiment mon amie d'enfance aussi. Donc, moi, j'ai fait des études brillantes.
Ah ouais.
J'étais très bonne élève. Voilà, j'étais excellente jusqu'au lycée. Après, un peu moins bien, mais j'ai fait Dauphine. Et donc, j'ai fait d'abord une carrière dans la finance.
Ouais.
J'ai travaillé 4 ans dans une grosse banque américaine à Londres et à New York. Après, je suis revenue à Paris travailler dans un hedge fund. Mais donc moi, j'ai un côté très, très américain dans ma culture et dans ma façon de manager, dans ma façon de gérer. Je suis très straightforward, comme disent les Américains, très direct. J'ai le tutoiement très facile, je passe pas par 4 chemins, etc. Donc ça fait partie de mes défauts et de mes qualités. Et en 2011, il y a eu la crise des subprimes, qui a été une crise très difficile dans la finance, tout s'est un peu effondré, la bourse, etc. J'ai fait un petit burn-out. Parce que je travaillais vraiment énormément, j'ai 4 enfants, donc c'était vraiment très compliqué à gérer.
Tu avais déjà 4 enfants à l'époque ?
Ouais. En 2011, ouais, exactement. Et donc voilà, j'ai commencé à réfléchir à changer, à prendre un nouveau départ dans ma vie professionnelle. Ouais. Et on verra que Stéphanie aussi, on s'est retrouvés au carrefour
crucial,
finalement de
ouais.
nos carrières, exactement, en 2011. Et voilà, j'ai voulu faire de la mode, qui a toujours été ma passion. Donc moi, c'est plus une passion que... Voilà, je ne connais rien techniquement à la mode. Mmh. Mais c'est vrai que j'avais vraiment une passion pour la mode, pour...
Pour le vêtement. Tu aimais t'habiller.
Vêtement,
ouais. Tu achetais beaucoup de vêtements.
Voilà, j'achetais beaucoup de vêtements. Mais mon boulot dans la finance me permettait de m'offrir beaucoup de ouais. belles choses. Donc j'aimais beaucoup le cachemire en particulier, mais les belles matières, les beaux produits. J'étais très intéressée, j'étais invitée au défilé, etc.
Ah oui.
Ouais,
ah ouais, c'était
le bull market,
sérieux,
comme
d'accord.
on dit. Exactement. Ah ouais. Et donc voilà, j'ai ce côté, cet œil finalement de la consommatrice.
Ouais.
Ce que j'apporte moi chez Kuchten, c'est l'œil finalement
ouais, ouais.
De la consommatrice. Et donc voilà, moi j'ai des origines très variées. Je suis turque, polonaise, américaine. Donc ça aussi, culturellement...
C'est hyper riche, ouais.
Voilà, c'est très riche. Et Stéphanie aussi, elle va dire qu'elle a beaucoup, beaucoup d'origine également. Donc on essaye finalement, de par notre diversité culturelle, d'apporter tout ça dans nos vêtements, dans nos idées, dans notre façon de manager, dans notre personnel. Enfin, dans toute l'histoire de Kuchten, finalement, c'est vraiment un grand...
Un melting pot.
Un grand melting pot,
ouais.
Exactement.
Stéphanie, on passe à toi.
Alors, donc, j'ai 44 ans, j'ai deux enfants, j'ai débuté ma carrière professionnelle dans une marque anglaise.
D'accord.
Qui s'appelle Joseph.
Trop cool.
Et très cool.
Ouais.
Voilà, c'était vraiment ma première grande expérience professionnelle. J'y suis restée 13 ans.
Donc 13 chez Joseph.
Voilà. 13 années
c'est une super école, ça, non ?
D'apprentissage.
Ouais.
Je suis rentrée assistante de collection et puis au fil des années, on m'a fait confiance. J'ai appris, j'ai eu beaucoup d'expertise aussi au cours de ces années-là. J'ai fini directrice de collection du pôle tricot, donc maille et jersey.
Donc, vraiment, c'est pas mal, c'est un bon background pour lancer une marque de maille, quoi.
Voilà, exactement. Donc, suite à ces 13 très belles années avec des rencontres incroyables, beaucoup de voyages en usine et commencer vraiment à avoir un bon bagage,
ouais.
Je me suis dit, bon, 13 années, c'est pas mal. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose, même si effectivement... la maille a toujours été ma vraie passion et c'est quelque chose que j'ai jamais voulu abandonner, mais j'avais envie d'expérimenter autre chose, différemment, de partir sur une autre aventure et une aventure plus personnelle parce que c'était effectivement avec une amie. Donc, je partais pas non plus à l'aveugle.
Ouais.
Et donc, voilà, il se trouvait qu'on s'est rencontrés au bon moment, au moment où Carole aussi avait envie de faire autre chose. Et c'est cette nouvelle rencontre qui a fait qu'on a démarré cette belle aventure.
Ensemble. Trop bien. Et ça, c'est en quelle année alors, cette rencontre,
cette retrouvaille ? Ouais, 2012. Ouais,
fin 2011.
Fin 2012. Donc 2012, c'est il y a 8 ans, c'est pas si vieux que ça. Et donc en 8 ans, vous êtes quand même, vous faites partie du paysage parisien quand même. Hein. C'est assez impressionnant. Donc, comment on commence par quoi quand on te dit je vais lancer une marque de maille, quand je vais lancer une marque de mode, parce que c'est quand même de la mode. On n'est pas tout seul sur le marché. Alors en 2012, je me rends pas compte. Comment était le marché ? C'était suite à la crise des subprimes, donc c'était pas non plus la folie douce.
Non, c'était alors 2012, c'était une année très compliquée d'un point de vue économique, effectivement. Mais c'est vrai que c'est pas ça spécialement qui nous a inquiétés. D'un point de vue concurrentiel, le cachemire, ça restait encore un peu confidentiel. En fait, il y avait un grand acteur qui est toujours là, Eric.
Ouais.
Qu'on va appeler Eric.
On n'a pas le droit de dire le nom.
C'est pour ça que je sais. Si, Eric Bompard. Valérie ne voulait pas qu'on...
D'accord.
Certains podcasts ne veulent pas qu'on cite d'autres marques. Oui, il y avait Eric Bompard qui était le leader incontesté.
Chez Entreprendre à la mode, on peut citer.
D'accord.
Pas de souci.
Donc, qui est clairement... c'était un modèle pour nous. Ça l'est toujours. C'était une magnifique réussite. Mais c'est vrai qu'ils étaient super leaders. Et à côté de Eric Bompard, il y avait finalement les Monoprix. Le cachemire qu'on trouvait un peu dans les grandes surface mass market, le col rond, le col basique, etc.
Et il y avait déjà ce marché du cachemire chez Uniqlo
encore.
D'accord,
non,
ça arrivait plus tard.
Uniqlo, c'est arrivé 2013-2014. Ouais. Vraiment, en 2012, c'était les prémices. Mais il y avait surtout le cachemire chez Monoprix, qui était d'ailleurs de très bonne qualité, qui l'est toujours. Et Eric Bompard. Et après, il y avait les marques de très grand luxe. Il y avait des généralistes genre Zadig et Voltaire aussi qui faisaient du cachemire, mais en pure player.
Ouais.
C'était Bompard et voilà, Monoprix, on peut résumer ça. Et
d'accord.
Bien sûr, bon, après Joseph, mais c'était plus du luxe.
Oui. Bon, après, ça devient des marques très, très exclusives, type l'Europiana, etc.
Ouais. D'accord.
Donc, effectivement, il y avait encore de la place.
Ouais. Et vous, à l'époque, alors vous dites quoi ? Je dis, on lance donc une marque de cachemire, vraiment un spécialiste du cachemire. Comment on se positionne, en fait ? C'est quoi votre analyse du marché à l'époque ? Donc, il y avait des leaders, il y avait plus du mass market. Et comment on vient s'infiltrer sur ce marché-là ?
Disons que surtout Stéphanie, comme c'était son métier, je pense que toi, tu avais vraiment la spécialité. Moi, en tant que consommatrice, finalement, je ne trouvais pas du tout mon compte. C'est vrai que chez Bompard, moi, je trouvais ça, c'était mon avis classique. Je n'avais pas envie d'aller m'acheter un col rond spécialement chez Monoprix. Donc moi, en tant que consommatrice, je n'arrivais pas à trouver exactement, exactement. Et c'est vrai que...
Et c'est vrai qu'avec mon regard qui était assez plutôt mode et moins consommatrice, je trouvais qu'il y avait un manque de diversité dans les coupes et dans les couleurs. Donc pour moi, ça a été vraiment le point de départ. C'était de travailler les coupes et les couleurs.
Après est arrivé l'argumentaire de prix, et c'est vrai que après c'est toute la stratégie de Carole, mais qu'elle a voulu mettre en place et qui aujourd'hui a fait notre réussite.
Ouais. Parce que aujourd'hui, vous, j'ai du mal à me rendre compte comment vous vous positionnez en termes de prix. Vous êtes
au-dessus, en dessous. On fait partie des marques affordable luxury, en fait, comme du Zadig, du Bache, SMC, enfin toutes les marques
Ensemble,
du groupe SMCP.
Hommage,
voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on va être moins cher que Bompard, par exemple. On va être plus cher que Monoprix. Donc voilà, on a rendu le cachemire accessible, en fait.
D'accord.
Voilà, on fait du luxe accessible dans le cachemire. Ça veut dire qu'on n'est pas cher, et c'est pas comme ça qu'on veut se positionner. Mais en revanche, on en a vraiment pour son argent. Voilà, on va dire ça comme
c'est
ça.
C'est le prix juste.
C'est le prix juste, exactement. Voilà. C'est un peu à la mode, c'est un peu galvaudé de dire ça, mais en fait, on estime. Après, on peut rentrer techniquement, mais on va pas prendre forcément des grosses marges. On va vraiment réfléchir. Voilà, on va essayer de trouver un prix qui soit juste, où la consommatrice va s'y retrouver, et nous également.
D'accord. Ouais. Et alors, le marché du cachemire, enfin, je pense que le plus important, c'est quand même... Enfin, un des sujets très importants, c'est de parler de la matière première.
Bien sûr.
Ce cachemire, alors, ça vient d'où ? C'est quoi cette matière ? Pourquoi c'est si cher ? Moi, j'ai un milliard de questions sur le cachemire. Pourquoi c'est si cher ? Pourquoi c'est... Pourquoi tant de spéculation autour de cette matière ?
Alors déjà, à la base, c'est une matière qui ne se trouve pas partout, géographiquement parlant. Il y a très, très, très peu de pays qui effectivement, ont des cheptels d'une chèvre en particulier, qui est la Capraïska. Ouais. Donc, c'est une race particulière de chèvre qui se trouve sur les hauts plateaux de Mongolie. Et donc, c'est pour ça que cette matière est extrêmement rare, parce qu'il n'y a pas beaucoup, effectivement, de cheptel, et que c'est une matière, effectivement, très précieuse. Ça nécessite aussi un savoir-faire aussi derrière. C'est tout un process.
Et le cachemire, on peut le retrouver à d'autres endroits dans le monde, ou c'est uniquement sur cette région de Mongolie, au plateau de Mongolie ?
Non, sur d'autres pays, effectivement, mais vraiment...
Enfin, les chèvres, elles sont principalement entre la Mongolie et la Chine. Après, ça peut être fabriqué dans plein de pays, mais la matière première,
c'est vraiment en Asie. Voilà.
En Asie,
on ne l'a pas en Amérique du Sud, on ne l'a pas en Afrique du Sud,
c'est d'autres, d'autres matières.
Très bien. Et donc, cette matière première, vous, alors toi, tu venais de ce milieu-là, donc tu as été chercher les bonnes filatures, alors, les bons réseaux, c'est pas si simple, ça.
De part de mon expérience d'année à sourcer beaucoup, beaucoup de fabricants, je connaissais effectivement un partenaire en Mongolie, et c'était vraiment une évidence que d'aller développer avec eux Kuchten, qui nous a vraiment permis d'installer la marque par aussi une qualité...
Remarquable.
Remarquable.
Le savoir-faire,
vraiment. Et l'important, c'était aussi d'avoir une fabrication où tout était intégré. Il est important aussi de réduire les coûts, ce qui nous a permis d'être aussi fort sur le marché, c'est que tout est fait sur place, la vente. Et ce qui est très rare aussi dans le tricotage et dans la fabrication de pulls. Généralement, on va acheter le fil chez quelqu'un.
D'accord.
Tout est intégré.
Donc,
on a une vraie traçabilité. En fait, on peut faire juste un petit aparté concernant le cachemire. On parle beaucoup en ce moment de la façon dont les animaux sont traités.
Ouais.
Les chèvres de cachemire sont peignées.
Oui.
Elles ne sont pas tondues, encore moins tuées pour leur poil, etc. Les éleveurs nomades, en fait, en Mongolie, avec qui on travaille, leurs chèvres, ce sont leurs trésors. C'est leur source de revenus, mais c'est un trésor. C'est-à-dire que les chèvres, elles sont bichonnées.
Ouais.
Exactement, elles sont bichonnées. Stéphanie qui va souvent en Mongolie quand il y a des...
Je peux même aller plus loin et les premières, enfin les portées aussi, les bébés sont considérés comme des membres de la famille. Les 10 premiers jours, ils dorment dans la yourte avec la famille. Il y a vraiment une notion, presque familiale.
Et donc toi, tu y vas de temps en temps sur place ?
Tout le temps,
tous les ans.
Oui. Très important.
Trop, trop cool. Et dans le processus, donc, tu dis que c'est peigné. Comment ça se passe, cette récolte de la laine ? C'est à quelle période de l'année ?
C'est la période de mue, Généralement, c'est effectivement fin avril, début mai. Mmh. En fonction du climat, il se trouve qu'on peut peigner un peu plus tôt. Mais en fait, ce n'est pas nous qui le décidons, c'est la chèvre. C'est elle qui va commencer à perdre son duvet. Et c'est à ce moment-là que le nomade, l'éleveur, va voir que c'est le bon moment de peigner.
Tellement cool.
Voilà.
Et tout ça dans des paysages de fou, non ?
Des paysages incroyables.
Ouais.
Incroyables. C'est-à-dire à chaque fois, c'est très riche en émotions.
Ouais.
On a envie de rester collé à l'œil de son appareil photo et cliquer toute la journée, tellement c'est sublime de beauté. On essaye de ramener à chaque fois le maximum de vidéos pour effectivement montrer à tout le monde la beauté des paysages et l'endroit exceptionnel.
Ouais. Et le respect des bêtes, etc.
Et
quand tu dis que c'est intégré, donc ils ont le cheptel, ils ont la collecte de la laine, la filature, donc ils font le fil et ils tricotent aussi sur place.
Oui. Tout est intégré, vraiment tout au niveau.
Mais ça,
la matière brute arrive dans les ballots de jute, ça reste très artisanal.
Bien sûr.
Ensuite, elle est triée, ensuite elle est lavée, ensuite elle est peignée, ensuite elle est teintée, filée. Il y a tout un processus, c'est un processus quand même très technique, malgré tout, même si l'origine est très artisanale. Au final, c'est un savoir-faire, un vrai métier. Et c'est énormément d'étapes, on ne s'en rend pas compte. On a l'impression que c'est juste du fil qu'on va mettre sur une machine, mais il y a énormément d'étapes.
Ouais.
Et c'est un savoir-faire incroyable qu'on a en Mongolie pour ça.
Et c'est quoi la particularité du cachemire ? Pourquoi on en fait des caisses du cachemire par rapport aux autres laines ?
Alors, c'est par son micronage et
sa finesse. D'accord.
Voilà, tout est là.
Et donc, un poil, plus c'est fin, plus c'est doux, c'est ça ?
Plus c'est fin, plus c'est doux, et plus il est long et plus il sera résistant.
D'accord, ok.
Voilà.
Et il y a une autre question aussi, c'est pourquoi c'est si cher le cachemire ? Parce que moi, j'ai un étalon or dans ma tête qui, sur le mérino, je crois que c'est, on est autour de 25-30 euros du kilo. Sur le cachemire, on est plutôt autour de 100 euros.
On est dans
les
100 euros, oui.
Ouais, 150 même, parce que c'est...
Ça démarre, oui, alors ça démarre vraiment à 100, mais voilà,
Et ça, c'est uniquement le marché, la demande, la fabrication qui est assez limitée, qui fait que c'est extrêmement cher.
Exactement.
Ouais.
Et puis la récolte, elle est c'est très minutieux. Et puis il y a beaucoup de déperditions en fait pour faire un pull en cachemire, il faut 5 chèvres.
5 chèvres,
près,
oui,
à peu près.
Waouh.
En fait, voilà. c'est vraiment l'offre et la demande.
Il faut savoir qu'une chèvre, quand on la peigne, on récolte à peu près 200 grammes de fibres.
Ouais.
Mais sur ces 200 grammes, il y a énormément de gros poils. Donc en fait, on va chercher le duvet, vraiment, on va l'extraire et on se retrouve avec 30, 50 grammes à peine, quoi.
En fait, parmi ces gros poils, l'appellation cachemire, le 100% cachemire, c'est, il y a une vraie notion de micronage, comme dirait
D'accord.
Steph.
Ouais.
Donc c'est-à-dire que dans certaines contrefaçons ou des appellations, certains gros fils qui vont sortir finalement du micronage, c'est quand même assez doux, c'est pas loin, enfin un millimètre près, etc. Donc voilà, mais pour vraiment pouvoir s'appeler 100% cachemire, etc., il y a vraiment cette notion de tri de fibres dans ce qui est récolté.
Donc pour être 100% cachemire, c'est vraiment le skate
inférieur à 15 microns, c'est ça.
D'accord, ouais. Ok, très bien. Et comment alors, excusez-moi, j'ai des questions un peu très techniques, mais je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on... Pourquoi il y a une telle différence de prix ? Alors, la question très directe, c'est pourquoi Uniqlo est capable de faire des cachemires ? Si c'est du cachemire, c'est peut-être pas du cachemire finalement.
Peut-être pas.
Comment ils arrivent à sortir des cachemires qui coûtent, je sais pas combien ça coûte un cachemire chez Uniqlo, mais ce sera 70, 80.
Je pense qu'on est dans les 80,
ouais. Ouais, 80, 90. Et dans d'autres maisons, beaucoup plus cher. J'imagine que le cachemire de chez Uniqlo, il est quand même de moins bonne qualité.
Il y a une notion de qualité,
une notion de gradation.
Il y a aussi une notion de quantité. Nous, on n'est pas du tout dans la quantité, mais plutôt dans la qualité. Donc, il y a aussi des grades de qualité
dans
le cachemire.
En fait, il y a les grades sur les fils, exactement.
Et nous, notre priorité, c'est de garder un grade A, qui est le grade supérieur. Après, il y a d'autres marques qui acceptent des grades B, des grades C. Et voilà.
D'accord, trop bien.
Donc, pour développer un petit peu plus ça, donc il y a déjà les gradations. Donc, ça veut dire que nous, on va s'adresser à notre usine en disant on veut que du grade A dans notre cachemire. Mais ça, c'est vrai que c'est pas forcément écrit sur les étiquettes ni rien, donc on le sait pas. Mais il y a du grade B, du grade C en fonction justement de la longueur du fil, de l'épaisseur, la chèvre. S'il a fait un hiver très froid, rigoureux. Parce que plus il fait froid, plus le duvet de la chèvre est très chaud et meilleur en fait.
D'accord.
Donc, une année de canicule en Mongolie, la qualité du cachemire va être mauvaise par exemple.
D'accord.
Donc, il y a la gradation. Après, effectivement, il y a quand même une histoire de marge et de prix. Bien évidemment, l'Europiana, quand ils vendent leur pull de 1000 euros, ils ont l'image, il y a un certain snobisme. Mmh, bon, bah voilà, ils vont le vendre plus cher. Uniqlo, ça va être plus un produit d'appel. Ça ne va pas forcément être moins bien, même si on peut penser que la qualité est un peu moins bonne. Mais ils vont quand même marger beaucoup moins pour que les gens viennent acheter un cachemire et ils repartent avec une doudoune ou je ne sais quoi. Donc, il y a quand même un marketing, bon, bah, comme dans toutes les marques, même sur le coton, sur un t-shirt ou sur n'importe quoi. Mais il y a quand même des vraies différences de qualité sur le cachemire, la gradation, la longueur du fil. Plus le fil est gros, moins c'est bon. Donc voilà, plus c'est épais, c'est pas un gage de qualité. Il y a la jauge, il y a beaucoup d'aspects techniques.
Le lavage aussi, enfin, il y a énormément d'étapes pour qu'on réussisse un beau cachemire.
D'accord. Voilà. Et alors, ma question de façon très naïve, qu'est-ce qui fait qu'un pull en cachemire est un bon pull en cachemire ?
Un bon pull en cachemire, c'est un pull en cachemire qui va durer dans le temps. Tout simplement.
Mais comment on fait pour qu'il dure dans le temps ?
Déjà, il faut l'entretenir. Ouais. C'est pas une matière facile. C'est une matière luxueuse, c'est une matière naturelle. Et toute matière naturelle a tendance à vivre un petit peu comme toute matière naturelle. Et donc, il faut faire attention au frottement, il faut faire attention au lavage, il faut faire attention à la température, aux produits, au stockage. On ne peut pas juste stocker comme ça son pull. Il faut mettre dans une petite housse. Enfin, voilà, ça nécessite un entretien particulier. Et plus on va l'entretenir et plus on va le laver, et plus il sera beau et plus il durera dans le temps.
Trop bien. On reviendra un petit peu plus tard sur comment vous, entre guillemets, vous éduquez vos clients sur le sujet. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est passionnant aussi. Revenons à votre aventure entrepreneuriale, parce qu'en 2012... deux anciennes copines ou deux copines, parce que vous n'êtes jamais perdu de vue finalement.
Non.
Vous retrouvez, vous dites on monte une marque. Bon, sur le papier, c'est... non, c'est cool, mais c'est pas si simple. On commence par quoi ? On trouve un nom ? Ce nom, il vient d'où ?
Alors voilà, alors le nom, c'est assez original et assez facile. Disons que c'est vrai que voilà, quand on a commencé à aller élaborer le projet avec Steph. Tout de suite, elle m'a dit, moi j'ai un super sourcing en Mongolie, fournisseur, pardon. Donc c'est vrai qu'on a tout de suite voulu vraiment jouer sur la carte Made in Mongolia par rapport au Made in China ou Made in peu importe. Donc on cherchait une invitation au voyage finalement, puisque voilà, comme nous on vient d'un peu différentes contrées et qu'on adore voyager, c'est une de nos passions communes. On voulait une invitation au voyage, donc on voulait un nom mongol.
Ouais.
Ce n'est ni ma deuxième langue ni ma troisième langue, donc forcément on ne connaissait pas tellement. Donc, on s'est mis sur le Wikipédia Mongolie. Et on a commencé à lire voilà, la capitale, etc. Et donc, Uchten, c'est le Mont Blanc mongol, en fait. C'est le plus haut sommet mongol.
Okay.
Donc, on a vu ce nom. Voilà.
Alors, à consonance aussi scandinave. Comme moi, d'origine, je suis née en Suède.
Trop bien.
Donc, d'origine scandinave. Beaucoup de gens ont l'impression que c'est une marque scandinave ou suédoise, peu importe. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un nom mongol.
Voilà.
Trop cool.
Donc, on a adoré ce nom.
Ouais.
Ce qui, par la suite, s'est d'abord avéré un peu handicapant parce que personne ne savait le prononcer, personne ne comprenait qui que quoi qu'est-ce. Donc, on en a fait notre force où, justement, l'expérience en boutique, quand les clientes entrent en boutique, déjà, elles ne comprennent pas ce que ça veut dire ni le prononcer. Donc, c'est vrai qu'une des premières choses que disent nos vendeuses dans le discours, c'est connaissez-vous notre marque ? Savez-vous ce que Kuchten veut dire ? Ah, bah non, bah, c'est le plus haut monde de Mongolie, on fabrique en Mongolie. Donc, on peut finalement raconter l'histoire de Kuchten et inviter au voyage finalement, parce que la Mongolie, c'est un pays qui est très peu connu, même si ça se développe un peu avec tous les treks. Les gens partent dans les yourtes, marcher, etc., sur des aires de gobi, etc. Mais c'est vrai que c'est un nom difficile à retenir, mais au moins qui marque et
trop
qui a
bien.
Une vraie signification.
Ouais. Et est-ce qu'à un moment, il a été question de le changer ou jamais ?
Non,
pour
c'était
moi,
trop
non.
tard en fait.
Ouais. Ouais. Et puis
on a regretté au début, on s'est dit zut, c'est trop compliqué. Et puis
on a réussi à en faire une force finalement.
Ouais, ouais. Et puis on s'y attache à son nom de projet.
Exactement.
Ok, donc le nom, ça s'est fait. Ensuite, le sourcing, c'était relativement aisé parce que tu avais déjà ton réseau, etc. Le positionnement prix, on en a déjà parlé. On lance une première production. Comment on distribue sa première collection avec vous, avec Kuchten ?
Alors, on a voulu ouvrir une boutique tout de suite. On a pris une boutique,
Pourquoi c'était un... Pourquoi ce parti pris?
Moi, je... Disons qu'on est des familles de commerçants.
D'accord.
Voilà, nos parents, nos grands-parents...
Avaient des boutiques
enfin,
ou des
enfin,
boutiques,
moi, mes grands-parents, oui. Du moins.
D'accord. Dans le textile ou...
Oui,
d'accord.
Oui, textile. Okay. Dans le tissu, même.
Dans le tissu et dans le...
Dans moi, dans des... la confection.
Dans la confection,
fait, c'était
ouais.
quelque chose que je...
Ouais, c'est un truc que vous, avez, que vous portez en vous depuis longtemps.
C'est vrai qu'on était un peu bercé dedans. Donc, c'est vrai que derrière la caisse, c'était un peu l'image d'Épinal où on imaginait les
c'était une évidence.
Derrière.
Et puis, en 2012, il n'y avait peut-être pas autant de...
Ouais,
Internet n'était pas aussi développé.
Ah, bah, c'est... Il n'y avait rien même. Enfin,
il y a 8 ans en arrière, ce n'est pas si vieux que ça,
non,
mais ce n'était pas aussi développé que ça.
Non, on n'est pas du tout une marque digitale native. Alors, maintenant, dommage parce qu'effectivement, ça va plus vite.
Ouais.
Mais c'est vrai que nous, à notre époque, c'était encore, on ouvre une boutique, on va dans les bonnes rues, le samedi, c'est la plus grosse journée, donc c'était...
On a toujours eu cette culture retail, en fait, finalement.
Ouais. Trop bien. Et qui est trop cool. Enfin, franchement, moi, je trouve que le retail, c'est passionnant. Et la première boutique, c'était à quel endroit?
C'était rue du Commerce, dans le 15e arrondissement.
D'accord.
Donc une rue...
Un des gros spots parisiens, quoi. C'est une,
oui,
c'est
à
une
l'époque,
bonne,
en tout cas,
à l'époque,
une bonne boutique.
À l'époque, c'était une bonne rue. Là, ça l'est un peu moins... Ça, un peu... ça change beaucoup. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était super fiers d'ouvrir notre boutique rue du Commerce.
Ouais, ouais. Et alors, là, avec une première production de combien? Je ne me rends pas compte. À l'époque, parce que bon, le retail, c'est quand même... en plus, c'est vos boutiques. Donc, vous n'avez pas de revendeurs à l'époque.
Non.
Donc, vous lancez une production. Il faut combien de temps pour produire une... Il faut quoi? Il faut quand même un petit bout de temps. Ce qui me semble, dans le cachemire, en plus, il faut réserver la matière. Parce que comme il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas si simple.
Oui, alors c'est vrai qu'au départ, on avait une plus petite collection qu'aujourd'hui. L'offre était beaucoup plus réduite.
Toi, tu savais ce qui était commercial, donc on a fait beaucoup de commercial.
On a fait beaucoup de commercial. Ouais. On a aussi travaillé sur ce qu'on appelle des stock services. L'usine nous avait mis à disposition un catalogue, une sorte de carte de couleurs qui était effectivement assez large. Et on a pu piocher aussi là-dedans, ce qui nous a donné beaucoup de souplesse dans le colorama, chose qui n'est pas évident.
Ouais.
Donc, on avait moins de risques sur les teintures de fil, etc. Et j'ai réussi à créer une première collection avec un plan équilibré entre des pièces un petit peu fashion. C'est-à-dire, on a essayé de dépoussiérer un peu le vestiaire en proposant des foam oversize, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir encore en cachemire. Et une petite ligne quand même de ce qu'on appelle aujourd'hui les basiques. Des intemporels qu'on a développés dans 25 couleurs. Et ça a été vraiment un peu le
démarrage.
Le démarrage.
Ouais,
et
ouais.
Les accessoires.
Et les accessoires sont arrivés combien de temps
en
après
même temps, En même temps.
Tout en même temps, d'accord.
Ouais.
Et alors, comment c'est accueilli c'est... Dès le départ, ça part tout de suite très fort.
On a eu de la chance, on a ouvert au mois d'octobre.
Ouais.
Il commençait fin octobre
À faire froid.
Un peu froid.
Ouais.
Les Parisiennes commençaient déjà un petit peu à regarder les cadeaux de Noël, etc. On est arrivé vraiment au bon moment.
Mmh. Et surtout, moi je pense quand même qu'on peut... Enfin, nous, le succès de Kuchten est encore aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, c'est qu'on... Toutes nos copines, en fait, on a plein d'amis, on a plein de cousines, etc. Et c'est vrai que nos amis ont vraiment joué le jeu. Ça veut dire que quand on a ouvert, c'était Steph et moi, on était vraiment à la caisse, à la vente, on tenait la boutique. Et c'est vrai que toutes nos amies sont venues avec les mères, les sœurs, les petites sœurs, les grand-mères. On a eu un bouche à oreille top. Enfin, et encore maintenant, nos amies étaient vraiment nos ambassadrices.
Voilà, elles sont aujourd'hui, effectivement, nos ferventes ambassadrices.
Ouais. Ouais. Et donc le bouche à oreille est vraiment parti de là, finalement, de notre réseau de copines, parce que voilà, on n'avait pas les moyens de communiquer ou quoi que ce soit.
Ouais.
C'est vraiment nos copines qui ont fait des cadeaux à tout le monde, à Noël, elles en ont profité. Enfin, donc c'est vrai qu'on a eu un petit engouement très rapidement.
Mmh. Ça peut partir vite en fait. Hein.
Bah, c'est parti très vite, ouais. C'est vraiment parti très vite. On n'en revenait pas.
On n'en revenait pas en fait.
Ouais,
on était quand même assez. Incroyablement surprise des chiffres qu'on arrivait à faire certains samedis avec du monde à la caisse, on n'arrêtait pas, nos maris sont venus nous aider.
Nos parents.
Les parents de Carole aussi étaient là. Enfin, une aventure incroyable et un succès imminent. Succès, enfin, un petit succès imminent.
Ouais. Tellement cool. Et qu'est-ce que je veux dire à l'époque, vous... J'ai envie qu'on parle de branding. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, mais qu'est-ce que vous vendez en plus qu'un cachemire à l'époque, qu'est-ce que vous dites aux gens? Parce que Bon, y a un produit qui est ouf, ouais. Des coupes, des couleurs, une marque, y a cet appel au voyage aussi au travers ouais. du mont Kuchten. Mais qu'est-ce qu'on vend de plus
On vend vraiment le style. Ouais. En fait, voilà, on dépoussière, on vend une nouvelle façon de voir le cachemire. En fait, ça veut dire qu'on vend un style, on vend un look, on vend. Alors, le cachemire made in Mongolie, parce que c'est vrai que c'était... Enfin, la plupart du cachemire est made in China. Il y a beaucoup de marques qui disent Inner Mongolia, en fait. Inner Mongolia, c'est la Chine. En fait, Inner Mongolia, c'est le nom d'une région en Chine. C'est comme si on disait made in Bretagne. Et comme il y a le mot Mongolia, les gens...
Ça passe.
Ouais, ça passe. Ouais. Alors que nous, c'est vraiment Mongolie. Alors, ça ne change pas vraiment, parce que la qualité est très bonne aussi en Inner Mongolia. Mais disons que nous... On a beaucoup joué finalement sur la Mongolie, sur le savoir-faire, l'association finalement du savoir-faire mongol et du style parisien, du design parisien, le studio. Alors on disait le studio alors qu'il n'y avait que Steph, mais on prétendait qu'on avait un studio incroyable. Encore aujourd'hui d'ailleurs, bien sûr. Studio les deux. Ça, voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'était une invitation au voyage avec un vestiaire complètement revisité et des prix qui étaient quand même inférieurs auprès de notre principal concurrent de l'époque. En fait.
D'accord. Et sur le produit, justement, comment on se différencie, comment on se renouvelle? Parce que est-ce que, enfin, vous êtes un monoproduit finalement, parce que vous faites que du cachemire, vous faites pas de jeans, vous faites pas de t-shirts, etc. C'est vraiment du cachemire, avec plein de modèles différents. Mais comment ces premières clientes, comment est-ce qu'on renouvelle l'achat alors toutes les saisons, ou tous les ans, ou tous les deux ans, tous les trois ans, comment est-ce qu'on suscite à nouveau l'envie, et surtout si on fait un cachemire de super bonne qualité et qui dure dans le temps?
Alors déjà, avec un regard de chef de produit, on regarde les modèles qui se sont mieux vendus et se créent des sortes de best-sellers. Ouais. Et ces best-sellers-là, il faut les retravailler, les réinterpréter et aussi souvent les reproposer tout simplement dans une nouvelle gamme de couleurs. Parce qu'on a suscité un coup de cœur, une forme d'un vestiaire que la femme n'avait pas encore l'habitude d'avoir. Et du coup, elle revient, elle dit « Mais est-ce que vous avez encore ce modèle? Dans quelle couleur vous nous proposez cette saison ?» Donc, il y a effectivement ce travail de recolorisation de best, mais aussi toujours de proposer de nouvelles coupes, de réinterpréter aussi des codes d'un vestiaire féminin qu'on n'avait pas eu l'habitude de voir en cachemire, mais que justement on propose à la sauce Kuchten, on va dire. Ouais. Voilà,
ça, Steph, elle est très forte pour ça.
C'est quoi la sauce Kuchten, justement?
C'est cachemire with a twist. Voilà, d'accord. Je ne peux pas dire mieux.
Ouais. Cachemire
de toute façon, on peut apprendre un jogging. On va faire un jogging en cachemire.
On va faire un jogging, de ville. On va faire un jogging sans bord côte en bas, avec juste un petit ourlet, comme ça on peut le porter avec des chaussures. On va faire un jogging avec une bande smoking pour la parisienne. On va faire le jogging week-end aussi, mais on va mettre une veste de tailleur en cachemire pour casser un petit peu ses codes. Voilà, c'est réinterpréter des iconiques de vestiaire, mais en cachemire. On a déjà fait des teddies, on a fait plein de twists comme ça.
Et les best-sellers, c'est toujours le col rond droit
Alors non, ce qui marche très fort chez nous, c'est les oversize.
D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est marrant. C'est fou, ouais. Et pourquoi, d'après toi?
Alors, je pense que ça correspond à plusieurs morphologies de femmes. On peut être très grande, mince, et porter un oversize, ça va donner un look. On peut être une femme un peu plus petite, un peu plus ronde, et qui voilà, se sent extrêmement bien, extrêmement à l'aise dans ces modèles un petit peu larges, un petit peu amples. Donc, il y a aussi une notion de confort. Je pense que c'est ce qui a plu.
D'accord.
Et Steph, elle est vraiment super forte. Parce qu'on disait comment tous les ans on arrive à reconvaincre nos clientes. Je pense que tu es vraiment très forte à dénicher les tendances. Qu'il y a une tendance tie and dye sur laquelle tout le monde surfe actuellement. Nous, on a sorti notre premier tie and dye il y a 3 ans en cachemire. C'était vraiment en France, enfin, il n'y en avait pas du tout. Et on a fait un carton avec notre tie and dye parce que voilà, c'était super
nouveau,
novateur.
C'était
vraiment rafraîchissant. Et c'est vrai que du coup, maintenant, c'est devenu... tous les ans, on fait des nouvelles couleurs, etc. Enfin, chaque collection. Mais c'est vrai que Steph, elle est très forte. C'est vraiment son métier, la mode. Tu regardes toujours les cahiers de tendance, les défilés. T'as vraiment un coup d'avance. Tu voyages beaucoup.
Énormément. Voire même les femmes, comment...
comment elle s'habille dans la rue, ouais, bien sûr.
C'est très important, ouais. Et pas simplement que des photos dans les magazines. Ouais. C'est important de comprendre ça, de décrypter un petit peu.
Et ça, c'est quoi ? C'est quotidiennement que tu le fais ?
Tout le temps.
Tout le temps.
Sans arrêt. Je m'arrête jamais.
Tu observes en permanence.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et ta principale source, c'est le métro ? Non, c'est quoi ? C'est le...
Non, c'est pas le métro, mais c'est... Voilà, j'observe énormément. Ça peut être à la terrasse d'un café, je m'assois et je vois des... C'est des vrais défilés, en fait. Ouais. C'est assez intéressant.
Bah, c'est ma passion aussi. Hein.
Et voilà, d'observer les gens, j'adore ça. On voyage aussi énormément.
Ouais. Voyager beaucoup ? Bah, en ce moment, c'est plus compliqué, mais...
Là, c'est plus compliqué, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Enfin,
c'est rafraîchissant. Enfin, voilà. Ça nettoie l'œil.
C'est
quoi.
Très inspirant de voir plusieurs cultures, de voir les couleurs.
Les gens,
voir...
c'est quoi les meilleurs voyages d'inspiration que tu aies fait jusqu'à présent ?
Jusqu'à présent, depuis une vingtaine d'années, je dirais le Japon.
Ouais.
Ça a vraiment été.
C'est le top. À chaque fois, il revient dans le top 3.
Il y a le Japon et je dois dire la Mongolie. Vraiment. Vraiment, vraiment.
On connaît pas bien la Mongolie. Hein. Je trouve que nous, en tant que petits Parisiens, enfin moi, on est plein de clichés, quoi. Hein. On imagine le berger dans sa steppe, sur son cheval, à fond la caisse.
C'est ça, hein. Ouais. C'est pas beau. C'est un des rares pays qui est resté un peu dans son jus, quoi. Ouais, alors Ulaanbaatar s'est énormément développé parce qu'ils ont eu avec le boom des ressources naturelles de l'uranium, notamment. C'est une grande capitale. On va avoir des boutiques Louis Vuitton. Un peu par-ci par-là, mais à part la capitale, donc Ulaanbaatar, le reste, ça reste
Des steppes, des chevaux, des animaux, des vaches et des yourtes.
Trop bien. Moi, j'aimerais bien qu'on reparle un petit peu des boutiques, parce que depuis, vous en avez ouvert quelques-unes quand même. Il n'y en a plus qu'une seule.
Il y en a 23
maintenant. Ça, c'est votre principal canal de distribution. Vous êtes vendu uniquement dans vos boutiques ou vous avez des revendeurs aussi ?
Alors, jusqu'à l'année dernière, on était vendu que dans nos boutiques. Et c'est vrai que cette année, on a un petit peu démarré le wholesale, très sélectif. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un salon et être vendu partout. C'est-à-dire c'est nous qui contactons les points de vente dans lesquels on aimerait être vendu. Soit ils acceptent, soit ils n'acceptent pas. Mais disons que la démarche, c'est nous qui faisons le call. Dans les boutiques qu'on a sélectionnées, en fait, surtout à l'international. Donc, en France, on reste à 90% distribué chez nous. C'est vrai que pour se développer à l'international, le wholesale, c'est indispensable. Donc, c'est là où on a envie d'être dans les boutiques, dans les bons spots internationaux.
Et c'est quoi les bons spots internationaux aujourd'hui ?
L'Angleterre, la Suisse, la Belgique.
Et c'est quoi les revendeurs vraiment clés ? Parce que j'ai le sentiment que... Bon, on a perdu Colette en France, qui était quand même un spot hyper positionnant. Aujourd'hui, c'est quoi l'équivalent d'un Colette au Japon, justement, ou en Angleterre, ou aux États-Unis
Alors, à Londres, il faut être chez Selfridges. Donc ça, c'est un grand département de store, mais c'est le département de store qui cartonne. Nous ne sommes pas encore, mais on ne désespère pas d'y rentrer.
Vous y travaillez.
Voilà, exactement, on y travaille. Après, à Milan, comment il s'appelle, Antonio ?
Rinascente.
La Rinascente, non, mais le multimarque.
Corso Como, non, c'est quoi c'est ?
Corso Como,
voilà, exactement. Après, à Genève, il y a le Bon Génie, qui est aussi l'équivalent du Bon Marché.
Et là, c'est quoi
le Webster aux États-Unis.
Ouais. Vous y êtes au Webster ?
Non plus, on est en négociation. Bah, disons qu'ils cherchent vraiment les marques très, très, très établies. Mais bon, on discute tous les ans. Ils viennent quand même à nos showrooms, petit à petit. Et puis maintenant, là où il faut être surtout, c'est sur les marketplaces, genre Mytheresa, Net-a-Porter, Farfetch, Matches. Et là, on commence, on est sur Lully sur la toile, qui a une super visibilité, par exemple. Ouais. Et on est en égo avec Net-a-Porter pour le moment. Et en fait, c'est eux maintenant les vrais, les meilleurs points de vente.
Ceux qui sont positionnants et qui vous donnent une visibilité.
Ça donne une visibilité. On est à côté de très belles marques, donc forcément, ça nous positionne. Voilà, exactement.
Et derrière la stratégie, c'est quoi ? Parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que vous êtes bien développé sur la France et en tout cas sur la région parisienne. Parce que quand vous dites que vous avez 23 boutiques, c'est principalement à Paris ?
On en a une dizaine à Paris. On en a 6 en province, une à Londres.
Une à Anvers.
Une à Anvers, voilà.
D'accord. Et après, derrière, quand on est revendu chez des revendeurs ou sur Net-a-Porter, ça nous donne de la data pour ouvrir de nouveaux marchés.
Exactement.
C'est ça
en fonction de. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, ça nous. Sur le web, nous, le digital. digital, on y arrivait un petit peu tard parce que voilà, on est trop vieille, on a un peu raté le coche en 2012, mais on essaie de se rattraper. Et c'est vrai que les commandes sur Internet, ça nous donne une énorme, ça nous donne beaucoup d'informations effectivement sur le CRM, donc la base client. Ouais. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de commandes en Belgique, donc là, voilà, on cherche à s'établir à Bruxelles, par exemple. Pareil pour la Suisse. Mmh. C'est très très intéressant de voir le profil des clientes, comme en boutique d'ailleurs.
Et des boîtes comme Net-à-Porter ou des revendeurs comme ça, est-ce qu'ils donnent de la data facilement ou pas forcément?
Ils sont très... Non, parce que c'est quand même leur... aujourd'hui, la data, c'est un peu le trésor de guerre de chacun. C'est comme nous, on ne va pas forcément partager notre base de données. Donc non, ils ne communiquent pas spécialement. Maintenant, c'est vrai qu'en fonction de... s'ils vont commander des petites tailles, on comprendra que c'est pour une clientèle asiatique. Enfin bon, voilà, les couleurs... Il y a quand même des morphologies en fonction des pays qui nous donnent, nous, des informations. Mais c'est vrai que non, ils ne vont pas du tout nous...
Il y a des couleurs qui marchent mieux dans certains pays que d'autres?
Pour l'instant, nous, on est quand même quasiment qu'en France, donc on n'a pas encore énormément, mais dans le cachemire, les couleurs neutres qu'on fait dans notre ligne organique, dont on n'a pas parlé,
très nature,
on en parlera, le beige, les crus.
C'est quoi ça? C'est Japan fond la caisse, non? qu'est-ce qui consomme ce genre de couleurs?
Les couleurs neutres,
tout le monde.
Ah ouais, tout le monde.
Même en France.
D'accord.
La parisienne est souvent en noir, en gris.
Oui, d'accord.
Ça reste quand même.
Non, mais je voulais dire plutôt les couleurs.
Enfin, beige, etc. Ouais, enfin, c'est quand même très tout le monde. Quoi.
D'accord.
En fait, ça, c'est un aspect technique qu'on n'a pas abordé, mais plus le cachemire est clair, plus il est doux, en fait.
D'accord.
Alors, hormis pour le noir, en fait, la couleur, qu'elle soit végétale ou autre, ça agresse la fibre. Donc, rien que le toucher sera très différent. Donc, l'idéal quand on achète son cachemire, c'est de prendre des couleurs
naturelles,
les couleurs du poil de la chèvre de base, en fait.
C'est vrai que la teinture abîme quand même le
complètement.
Poil.
Complètement.
Donc,
ça agresse.
Plus on reste naturel, plus ça dure longtemps et plus c'est doux, quoi.
Exactement.
Mais ça, c'est un truc que les gens ne savent pas. Parce que j'ai le sentiment que, moi, je le vois bien au travers de ma marque. Franchement, un même pull, enfin un même produit dans des couleurs différentes va vivre différemment. Et c'est flagrant, quoi. Il va résister plus ou moins bien au temps en fonction de la teinture.
Bien sûr, complètement.
Et là, on en vient à comment vous expliquez ça à vos clientes. Comment vous faites de la pédagogie autour du lavage, autour du boulochage, autour de comment on l'entretient, etc. C'est parce que ça, c'est quand même un vrai sujet.
Surtout
quoi.
Alors, surtout dans le cachemire, effectivement, c'est très touchy.
Ouais.
La base pour nous, déjà, c'est de former toutes nos équipes. Donc, avant d'intégrer la famille Kuchten, on passe par, un apprentissage. Et c'est cet apprentissage-là qui est après réexpliqué en boutique aux clients. Et c'est généralement au moment du passage en caisse, où on a un peu le temps de discuter avec la cliente, que, nos équipes de vente expliquent tout le processus d'entretien et de lavage. Et ce qui était important pour moi quand on a démarré Kuchten, c'était que c'était une information très très importante à ne pas dénigrer et pas simplement sur une petite vignette de composition à l'intérieur d'un vêtement.
Ouais, se dédouaner.
Donc, voilà. On a mis en place un pochon dans lequel est mis le vêtement, et dans ce pochon est expliqué toute la méthodologie en fait pour bien entretenir son cachemire, que ça soit à la main, que ça soit à la machine, etc. Donc c'était vraiment un point d'information crucial à vraiment faire intégrer aux équipes et à faire partager à la cliente.
Ouais. C'est tellement important d'ailleurs pour nous que dans notre flagship avenue Victor Hugo, donc à Paris, on fait des ateliers entretien du cachemire. On a des machines à laver dans notre boutique. Et une fois par mois, on invite nos clientes VIP, mais là, on va l'ouvrir. Donc, ça date de 6 mois. Donc, jusqu'à présent, c'était un peu en bêta testing. Mais là, on va l'ouvrir à toutes les clientes qui le désirent. Donc, on fait des ateliers une fois par mois, le jeudi, où chaque cliente vient avec un pull en mauvais état. On fait tourner les machines, on a une cliente, on débouloche, on a le petit peigne, etc. On monte les produits d'entretien. Et ça, on a vraiment un succès avec ça parce que c'est... c'est super ludique, c'est drôle, on est autour d'un café. Comment entretenir son pull?
Il y a une appétence pour ça.
Oui, parce qu'en fait, c'est un frein à l'achat du cachemire, l'entretien. Ouais, on a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, mais moi, j'en ai acheté un, il s'est flingué à la machine, ou j'ai pas réussi à laver, ou c'est devenu trop petit ou trop grand, etc. » Donc, c'est vraiment un frein. Donc, plus on explique l'entretien aux clientes, plus elles seront servir de nos pulls, plus elles se rendront compte que finalement la qualité est excellente et que celle qui s'était trompée, peut-être en le lavant, etc. Et plus elles en achèteront d'autres. En fait.
Trop bien. Et c'est quoi les autres freins à l'achat du cachemire ?
Le prix, quand même. Ça reste, ça reste vraiment un produit de luxe. Et tant mieux, parce que finalement, s'offrir un cachemire, c'est se faire un cadeau. C'est pas je m'achète un pull à 70 balles. Plus on va... Enfin, encore une fois, même si on essaie d'avoir le prix juste, la femme qui s'offre son pull en cachemire, il faut qu'elle ait conscience que c'est un objet de luxe, même si ça a été énormément galvaudé, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut y faire attention. Mais c'est vrai que c'est une barrière. Mais quand elle est franchie, on y prend goût, on est addict, on ne peut plus porter de laine, on ne peut plus porter autre chose parce que ça gratte, etc. Donc c'est vrai que ça nous empêche quand même d'aller chercher une clientèle trop jeune. Malheureusement, qui pique les pulls de sa mère, comme ça arrive très fréquemment dans nos clientes. Mais voilà, le frein, c'est l'entretien et les prix. Parce que je pense que sinon, tout le monde préférait porter du cachemire que n'importe quel autre pull dans une autre matière. C'est tellement agréable à porter qu'on on devient vite addict.
Ouais. Et là, je me tourne vers Stéphanie. Est-ce qu'on se lasse pas au bout d'un moment de toujours faire pas la même chose parce qu'on se renouvelle, mais toujours travailler le même produit après 8 ans de bons et loyaux services auprès du cachemire ?
Pas du tout. Ouais. Vraiment pas du tout, parce que c'est vraiment le cachemire, c'est vraiment
c'est
la
passion.
Matière. C'est le Graal de toute la filature, c'est vraiment la matière de luxe par excellence. Et on se lasse pas du luxe.
Ouais.
Et la chance que j'ai, c'est de vraiment pouvoir avoir des partenaires qui m'accompagnent dans mes développements. Souvent, je demande des choses impossibles et on arrive à faire des choses très intéressantes. Et donc, c'est effectivement un renouvellement sans cesse et perpétuel, mais c'est passionnant.
Ouais. Tu parlais de votre cliente. Aujourd'hui, votre cliente, c'est qui finalement ? C'est une femme qui... On parlait d'une femme qui a 40 ans, mais... Est-ce qu'elle est très parisienne, elle est...
Bon, par définition, vu qu'on est très bien implanté à Paris, c'est une femme parisienne, oui, mais au-delà de ça, oui, c'est une femme qui a 40 ans, qui aime se faire plaisir, qui aime les belles choses, qui aime se faire chouchouter, qui aime être belle, qui aime se sentir belle, en fait. Voilà.
Ouais, c'est aussi simple que ça.
Qui a une vraie notion de confort aussi,
qu'il
ne faut pas oublier dans le cachemire. C'est effectivement très beau à porter, mais il y a une notion de confort qui est extraordinaire et je pense que c'est très important.
Et vous avez le sentiment que les us et coutumes, pas les us et coutumes, mais en tout cas le rapport aux vêtements a changé depuis que vous êtes sur le marché. Est-ce qu'il y a de plus en plus de recherche de confort justement, plus qu'avant C'est quoi votre sentiment ? Enfin, comment est-ce qu'elle a évolué, votre cliente, depuis 10 ans, depuis 8 ans ?
Notre cliente, elle devient un petit peu plus éco-responsable.
Ah ouais ?
C'est ce que je dirais, oui. Ouais. Il y a plutôt une notion de traçabilité.
Voilà.
C'est marrant, ça. Ça se comprend, mais je ne pensais pas que c'était si présent. C'est marrant parce que c'est vraiment la première chose que vous dites. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'elle vous demande, vos clientes, la traçabilité?
Elle demande d'où c'est fabriqué. Ouais. C'est vraiment... Alors que, encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer si c'est fabriqué en Chine ou ailleurs, mais le fait que ce soit fabriqué en Mongolie, ça leur fait plaisir.
Ouais.
Après, ça ne veut pas dire que toutes choses égales par ailleurs, elles n'achèteront pas un pull fabriqué en Chine et tout, mais elles sont contentes de savoir que c'est fabriqué en Mongolie. C'est vrai. Après, effectivement, dans le lifestyle, je pense que là, on a remarqué depuis 6 mois avec le confinement, on a vendu une tonne de jogging, de pulls beaucoup plus larges, de chaussettes. Mais bon, espérons que ça reste, que ce ne sera pas le cas, qu'on ne sera pas confiné ad vitam aeternam. Mais forcément, quand on reste chez soi ou entre amis, qu'on va moins au restaurant, qu'on s'habille moins, etc., on s'achète les habits qui correspondent à notre façon de vivre, en fait.
La notion de bien-être, elle reste quand même très importante, surtout maintenant, de se faire du bien. Et grâce à cette matière, on se fait énormément de bien. C'est une douceur absolue, une caresse. Et en plus, voilà, c'est tellement...
C'est thermoréculant.
Tellement de caractéristiques positif que voilà.
Et sur la sustainability, elle vous demande le sourcing, mais est-ce qu'elle vous demande des certifications, des choses comme ça? Est-ce que c'est un sujet demandé?
Pas tellement.
Ouais.
Pas tellement.
Et il existe des certifications très spécifiques dans le Cachemire?
Bien sûr.
C'est quoi?
Oui,
c'est
oui.
GOTS, RWS,
c'est celle-là. Exactement. Hein. Ouais, ouais.
Ouais, ouais. Et vous faites en sorte de les avoir ou c'est
évidemment. Ouais. Oui, oui, bien sûr.
Tout est GOTS,
tout est contrôlé. Ouais, Et en sans ça, on ne pourrait pas travailler avec notre partenaire.
Ouais,
c'est quand même un point très important.
Tout de suite, ça a été quand vous avez créé Kuchten, ça a été un. Enfin, ça fait partie de l'ADN de la marque, quoi.
En fait, on le faisait déjà avant que ce soit entre guillemets à la mode.
Voilà. C'est-à-dire que à la base, pour moi, le cœur de la collection tournait autour de ces quatre couleurs naturelles. Mmh. On commence par les classiques, on va dire, et après, on va développer les nouvelles couleurs, tendances du moment, etc. Ouais. Mais la base de ces couleurs-là, elles sont naturelles. La chance en Mongolie, c'est qu'il n'y a pas que des chèvres blanches. Il y a des chèvres avec des poils bruns, des chèvres marrons, des chèvres rousses. Et ce qui apporte vraiment quatre couleurs naturelles. Mmh. Donc, on a vraiment cette chance d'avoir accès à ces couleurs-là sans teinture. Et c'est vrai qu'elles ont une douceur extrême. Elles ont elles tiennent beaucoup plus dans le temps. Mmh.
Donc c'est très. Y a aussi un nouveau truc à la mode dans le Cachemire qu'on ne fait pas et qui est aussi un peu. Je trouve ne reflète pas vraiment la réalité. Il y a une vraie notion de Cachemire recyclé. Mmh. Mais en fait, le Cachemire recyclé, c'est bien dans la mesure où, effectivement, on repeigne pas deux fois la même chèvre, mais limite, on ne lui fait pas de mal. En revanche, c'est reteinté. Mmh. Et en fait, le problème de l'industrie du textile aujourd'hui, c'est les teintures. Mmh. Donc finalement, s'il est recyclé, mais que le fil est reteinté finalement par-dessus, ça fait toujours autant de pollution finalement. Ouais, ouais. Donc la notion de recyclage est bien pour les cheptels en disant il n'y a pas de...
On ne gâche pas la matière.
Voilà, on ne gâche pas la matière, effectivement. Mais disons que c'est très polluant. C'est quand même très polluant.
Ouais, ouais,
Rien ne sera... Enfin, voilà, ce qui n'est pas polluant, c'est de prendre des matières naturelles, chez nous ou ailleurs, sans teinture ou de la teinture végétale. Ouais. Mais c'est ce qu'on fait. Mais c'est très différent. Enfin, voilà, un cachemire recyclé, il y aura eu de la teinture peut-être très agressive qui aura pollué les rivières, etc.
Toutes vos teintures sont naturelles, vous, aujourd'hui?
Alors, il y a les teintures naturelles. Après, il y a une gamme de teintures végétales qui est aujourd'hui encore une petite capsule, mais qui grossit. Et après, il y a les teintures classiques, mais ce sont des teintures certifiées.
Ecotex.
Donc, voilà.
Donc, vous êtes plutôt pas mal en termes de sustainability, quoi.
Oui.
Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là de la sustainability, pour vous, c'est quoi la vision de Kuchten en termes de sustainability? Où est-ce qu'on peut... Enfin, comment vous allez pousser le sujet encore plus loin en termes de sustainability? Parce que vous êtes déjà vachement bien, hein, franchement, bravo. Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin encore?
En fait, nous, on a commencé la saison dernière à sensibiliser notre cliente par une capsule qui s'appelle la capsule Kuchten organique. Mmh. Et en fait, c'est plus par des modèles spécifiques. De travailler aussi des vêtements unisexes. C'est à travers en fait des vêtements et des coupes qu'on va les intéresser justement. D'accord. À ce type de matière.
Même sur la sacherie, on fait tout en recyclé. On a changé toute la sacherie cette année. Tous nos sacs, tous les pochons, on fait que du papier recyclé. On a arrêté de faire un lookbook papier. Maintenant, on fait du lookbook digital parce que les journalistes, elles les recevaient, elles le foutaient à la poubelle. Elles en reçoivent tellement que finalement,
on faisait
des beaux lookbooks magnifiques que personne ne regardait. Donc, c'est vrai qu'on essaye à notre petite échelle finalement de moins gâcher de papier et tout faire en recyclé dans la mesure du possible. On n'est pas à 100%...
Je reviens à l'entretien qui est aussi une notion de sustainability.
De responsabilité,
c'est très important. L'entretien est complètement corrélé, c'est-à-dire que une cliente qui va avoir un petit accident sur son pull, elle dit je le mets de côté, etc. Si elle revient chez nous, on va lui apprendre comment l'entretenir pour qu'il devienne durable et qu'elle le garde très très longtemps dans son vestiaire.
Super intéressant. Moi, je reparle. Enfin, je suis un peu obsédé par l'acquisition, forcément, parce que vous faites de l'acquisition de nouveaux clients au travers de vos boutiques, au travers de vos revendeurs. mais aussi au travers de relations presse, relations publiques, autour de l'influence. Expliquez-moi un petit peu comment vous travaillez cette notoriété. C'est quoi les autres canaux d'acquisition ?
Alors, donc, on a notre attaché de presse, c'est Jean-Marc Felous, qu'on adore, qui s'occupe très bien de nous, qui nous a très, très bien positionnés.
Qui nous a beaucoup accompagnés.
Ça fait 4 ans qu'on travaille avec lui, qui nous a vraiment fait connaître, qui nous a fait un excellent positionnement, exactement là où on voulait être, la femme du Stein.
En 2012, c'était le cas déjà ?
Non, en fait, pendant 4 ans, on n'avait pas d'attaché de presse, on n'avait rien du tout, c'était que du bouche à oreille. On n'avait pas d'Instagram, enfin, on naviguait un peu à vue. Et c'est vrai que voilà, la question du branding, comme tu dis, on a commencé à se dire qu'il fallait s'en occuper depuis quelques années. Donc sur le print, c'est vrai qu'on a des très belles parutions, on a eu beaucoup d'articles, puisque Kuchten, c'est une histoire d'amitié avant tout, Carole et Stéphanie. Donc on a fait beaucoup parler de nous et du produit. Et c'est vrai que le print, ça ne suffit plus du tout. Et qu'on développe de plus en plus l'influence à travers les réseaux sociaux. Donc là, ça va être des rencontres, ça va être
des collabs,
les influenceuses qui vont venir vers nous parce qu'elles vont avoir découvert Kuchten d'une façon ou d'une autre, qui vont vouloir travailler avec nous, c'est nous qui les approchons. Mais c'est clairement incontournable aujourd'hui et ça va le devenir de plus en plus, j'imagine, dans les années à venir. Donc, l'acquisition de nouvelles clientes, ça reste effectivement le retail avec le passage. Le bouche à oreille qui, je pense, reste notre vecteur premier parce que chez Kuchten, on ne l'a pas dit, mais il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui vont acheter pour eux. Mais il y a également beaucoup de cadeaux. Le cachemire, ça s'offre, surtout à Noël. Donc, on va recruter beaucoup de nouvelles clientes par le biais. Elles ont reçu un cadeau, elles vont venir l'échanger ou elles ont adoré, elles vont racheter, etc. La presse et donc l'influence maintenant qui est incontournable.
Et dans ces 8 années d'expérience, le truc qui vous a, où vous avez eu l'impression de, j'aime bien dire, de casser le code, quoi, de se dire, putain, c'est fou, cette action, en tout cas cette opération, nous a permis de faire un bond en avant extraordinaire. Il n'y en a pas. Ça n'existe peut-être pas.
Hein. Non, je dois dire que le fait d'avoir créer des collections de cachemire tie-and-dye. Ça nous a fait quand même connaître un peu plus, d'avoir une meilleure visibilité, je trouve.
C'est le produit. Ouais.
C'est vraiment le produit.
Ça s'est positionné très mode. En fait, on avait une image peut-être un petit peu plus classique sur les 3-4 premières années parce qu'effectivement, c'était un peu plus commercial, on prenait moins de risques. Et on a pris beaucoup plus de risques en lançant cette capsule, effectivement.
Et ça a payé.
Oui, complètement.
Ouais. Ça, si c'était à refaire, est-ce que vous l'intégreriez plus tôt dans votre démarche ? Ce côté, parce que c'est vrai que quand on fait des basiques, des bons basiques, ça peut vite être boring en fait pour la cliente. Et j'ai le sentiment que, en tout cas sur le marché de la femme, c'est important d'avoir ce côté acidulé, ce côté mode. Pas tout,
il faut les surprendre en fait.
Il faut les surprendre.
Complètement.
Ouais.
Si c'était à refaire. On est content de la trajectoire qu'on a eue. Quand on se lance, c'est vrai qu'on met nos économies. On sait qu'un basique noir, ça va se vendre quand même. Mais effectivement, disons que c'est vrai que plus les collections passent, plus Stéphanie, elle ose beaucoup plus parce que tu es très pointue. Elle est très pointue, Steph, dans sa façon de s'habiller, dans ce qu'elle aime. Mais c'est vrai que moi, au début, elle me proposait des formes où je lui disais, oh là là, attends, moi j'adore, mais quand même.
Je suis pas la cliente.
Le mainstream, faut pas exagérer. Notre clientèle n'est pas non plus que des lectrices de Vogue. Mais c'est vrai que vu que maintenant on a notre notoriété, on peut se permettre, et Steph le fait de plus en plus.
On bouscule vraiment.
On a des formes très originales, on a des combinaisons en cachemire. Il y a des modèles, je pourrais croire que c'est du Céline, quoi. Tu sors vraiment des choses magnifiques.
Époque Phoebe Philo.
Voilà, époque Phoebe Philo, oui, voilà, exactement. Très androgyne, exactement. Okay. Effectivement, on prend beaucoup plus de risques pour marquer notre empreinte.
Trop bien. Votre vision là pour Kuchten, c'est quoi ? C'est quoi votre rêve pour Kuchten ?
Moi, c'est vraiment essayer de l'emmener à l'international, parce que je pense que Kuchten, effectivement, plaît beaucoup aux Parisiennes, mais le style parisien est un style qui peut aussi voyager et est très bien perçu aussi à l'étranger. Il y a beaucoup de marques françaises qui percent.
C'est quoi le style parisien d'ailleurs ? d'après toi? Toi qui es très pointu.
On va dire, c'est mélanger un classique avec un twist, ouais. Avec toujours beaucoup d'élégance, mais beaucoup de simplicité aussi. Voilà.
On est d'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes plus que toutes les deux.
Non, voilà. Mais on reste quand même une petite équipe.
Ouais, mais j'ai quand même croisé 2-3 personnes dans les couloirs. Comment l'entreprise a grandi? À partir de quel moment vous vous êtes fait accompagner? Est-ce que vous êtes vraiment toute seule? Alors, vous avez de la famille dans le business de la confection, de la mode, etc. Donc j'imagine que chacun a donné ou apporté sa pierre à l'édifice. Mais comment est-ce que cette aventure a grandi humainement?
C'est quand même toutes les deux, même si effectivement tout le monde a mis son petit grain de sel.
En tout cas, ses conseils, quoi.
Voilà, les conseils, etc. C'est vraiment toutes les deux jusqu'à les 4 premières années, on était vraiment multifonction. Donc il y avait bien évidemment, au fur et à mesure des boutiques, on a pris les équipes de vente. Donc ça, voilà. Mais au siège, disons qu'au studio, ça restait Stéphanie et elle-même. Voilà, moi, je faisais à la fois la compta, la finance, la stratégie, le marketing, etc.
Moi qui ai fait aussi les recrutements,
les merches. C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup fait pendant quelques années. Et effectivement... on reste une petite équipe parce qu'on aime bien tout dire. Enfin, on a un peu de mal à déléguer, mais on le fait de plus en plus. Mais maintenant, on est une quinzaine au siège stock. En plus des équipes de vente, on a une responsable marketing, on a une directrice retail, une comptable, une graphiste, une responsable digitale. Donc effectivement, on a les postes clés ont été pourvus. Mais c'est vrai qu'on garde quand même... un œil surtout, moi surtout sur mon côté finance, stratégie. Je laisse rien passer, je surveille tout. Stéphanie aussi, il y a rien qui sort du studio ou il n'y a pas d'image de marketing qui va sortir sans le consentement de Steph.
Trop bien. Ouvrir des boutiques, ça coûte cher quand même, non?
Oui.
Comment vous êtes financé au départ? J'imagine que vous aviez un peu de sous chacun de votre côté.
Exactement. On a financé en fonds propres et on a fait beaucoup d'emprunts bancaires.
D'accord. Ok.
On a fait des crédits à la banque.
Trop bien.
Donc voilà, ça
s'est fait. Et petit à petit, ça s'est fait organiquement.
En fait, tout s'est fait organiquement jusqu'à l'année dernière où on a fait rentrer un fonds.
Ouais.
Enfin, c'est même pas un fonds, c'est une famille, en fait, qui est rentrée au capital.
Family office.
Voilà, un family office, exactement, pour les initiés, qui a pris une petite participation minoritaire chez Kuchten. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, tout était fait organiquement, en fonds propres. Ça coûtait cher d'acheter des fonds à l'époque. Malheureusement, c'était pas des très bons investissements, puisque la valeur des fonds, avec les gilets jaunes, les grèves, etc., ça a plutôt tendance à baisser. Mais c'est vrai qu'être dans les bonnes rues, ça reste quand même clé pour lancer une marque. Si je devais donner un conseil, vaut mieux dépenser plus, être dans un bon emplacement que se dire « Ah, je suis dans la rue perpendiculaire, etc. » Ça coûte moins cher, mais c'est pas pareil.
Location.
Exactement. Hein,
bon voyage, ouais.
Voilà.
Et le faire entrer un fonds, ça a permis quoi en termes d'ouverture de boutique? Alors, c'était peut-être pas le meilleur timing pour rentrer.
Pas pour eux.
Pour eux, ouais.
Pour nous, c'était parfait.
Ouais.
Au niveau des embauches.
Je pense qu'ils sont contents. Ça nous a permis d'embaucher.
Ouais.
Ça nous a permis de redéfinir notre identité de marque.
Parce d'accord, que vous avez fait un travail de repositionnement.
On a exactement.
Et de...
le logo, notre petit logo
Bonheur et sérénité.
Voilà, notre logo, on a refait la sacherie, on a pris une agence de com, on a refait notre site web. Donc c'est vrai que ça nous a permis de... jusqu'à présent, tout l'argent qu'on avait, toutes nos économies, tout l'argent auprès de la banque, c'était vraiment pour les emplacements, les boutiques, etc. Mais on avait du coup un peu négligé l'image, le marketing, le site internet, les recrutements. Donc voilà, l'argent qu'on a levé, ça nous a permis vraiment de semer pour récolter, j'espère, dans les années à venir.
Trop bien, Et Internet, parce que c'est vrai que vous êtes vraiment retail, on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'avec ces histoires de gilets jaunes, de Covid et de comportement du consommateur. Mm-hmm. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet d'acheter sur Internet,
non,
clairement. Comment vous y êtes pris? Enfin, vous avez fait appel à une agence pour développer votre site Internet?
Alors, ouais, exactement.
Expliquez-nous un petit peu la démarche.
Alors, on a regardé ce qui se faisait, ouais. On a regardé les sites qui marchaient bien, là où on avait l'habitude, on avait regardé dans un contact en bas qui était le web designer. On a fait une étude de marché, on a fait des appels d'offres, et puis voilà, on s'est mis d'accord avec WShop, qui est un bon... Enfin, voilà, bon, ça vient de... C'est nouveau.
Ouais.
On verra.
Vous allez voir les
résultats. On a beaucoup d'espoir, voilà, exactement. Donc, on était sur Magento, on est passé sur Shopify. Enfin, un SaaS qui ressemble à Shopify, en tout cas, qui est développé par WShop. Donc, on a beaucoup investi dans ce nouveau site.
Dans les shootings. Énormément.
Voilà.
Plus qu'avant.
Ouais. Le contenu, c'est la clé, quoi.
Donc, exactement.
Mais ça, je pense qu'il faut le répéter pour tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai que ça paraît tout de suite des investissements qui sont colossaux, de faire appel à un modèle,
c'est des gros investissements.
À un photographe, peut-être à une boîte de prod éventuellement. Mais c'est la clé. Enfin, sur Internet, si t'as pas une bonne image, c'est mort, quoi.
Exactement. En fait, on s'en est rendu compte parce qu'au départ, avec nos petits budgets, on faisait effectivement
à
la mano, avec des copines. Ah bah tu connais un photographe, ah bah tu connais un make-up, machin, dada. On a shooté chez Carole, on a shooté chez moi. On s'est un peu débrouillé comme ça, et on s'est vite rendu compte que malgré tout, ça restait quand même très compliqué. En termes de résultats, et qu'il fallait être accompagné par des professionnels et des gens vraiment qui avaient de l'expérience et qui pouvaient nous accompagner sur, sur ces projets-là.
Mais c'est là où on voit les vraies barrières qui arrivent, en fait.
Ouais.
Donc, jusqu'à présent, acheter une boutique, bon, ok, ça coûte cher, mais si ça se vend, le loyer, ça se paye, etc. Et c'est rentable jour 1, en fait. Le chiffre d'affaires, il rentre tout de suite.
Ouais.
Alors que c'est vrai que sur le web, les shootings et tout, c'est des vrais investissements.
Qui font peur,
qui sont très
importants.
Ouais. Exactement.
Où t'investis pour le futur, quoi.
Voilà. Et le retour n'est pas immédiat, donc c'est là la vraie difficulté.
Ouais.
Et puis on peut être déçu. Des fois, on voit les photos, on se dit, oh, merde, le shooting, la mannequin, finalement, elle est moins belle. Donc, si c'est raté, c'est perdu aussi, quoi. Donc, c'est vrai que les gros investissements, jusqu'à présent, on ne les faisait pas encore vraiment, on se débrouillait. Mais là, pour passer l'extra mile, comme on dit, pour vraiment passer au-dessus, on doit passer par ces investissements. Et c'est là où on se rend compte que c'est à coût de 30 000, 50 000. Enfin, c'est des gros budgets.
Budgets.
Ouais, ouais. Et l'apprenti, enfin, s'il y a des choses à retenir là-dedans, alors même si on est qu'au tout début de ce changement, enfin, de ce passage d'un cap, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est vrai que, encore une fois, moi je le vis dans ma propre aventure entrepreneuriale, c'est dur en fait de sous-traiter aussi même ça, l'image,
exactement.
Etc. Et j'ai souvent le sentiment que, surtout au début, il faut quand même le faire soi-même et il faut être sur place. Enfin, il faut beaucoup contrôler parce que tu peux pas non plus donner ton bébé aussi simplement, quoi.
Alors, moi personnellement, je donne pas le bébé, j'accompagne.
Ouais, bien sûr.
Et je suis toujours présente.
Ouais,
et
ouais.
Même si sur un shooting, c'est pas moi qui fais le stylisme et que c'est quelque chose que je délègue, je suis là et je donne mon avis et c'est très important.
Ouais. Et tu vois les photos au fur et à mesure.
Et c'est validé
au fur et à mesure,
et bien sûr.
Ouais,
bien sûr.
Ouais, ouais. Trop bien. Alors, Kuchten, c'est une aventure aussi à deux. Et ça, c'est quand même chambé, parce que c'est quand même cool de partager une aussi belle aventure. Comment vous vivez votre amitié dans l'entrepreneuriat? Comment ça se passe dans les bons moments? Comment ça se passe dans les mauvais moments? Est-ce qu'il y a des mauvais moments ou est-ce qu'il n'y a que des bons moments?
Je dirais qu'il y a plus de bons moments que de mauvais moments. Mais comme dans toute entreprise, il y a des moments forts, intenses, qui souvent sont des moments difficiles aussi. Il y a des caps, on a passé pas mal de caps, et plutôt dans la joie et le bonheur que dans la douleur. Mais effectivement, il y a eu des moments un petit peu compliqués. Mais la, notre amitié fait qu'il y a moins de barrières, il y a beaucoup plus de communication, de facilité. On se connaît bien, donc on sait comment se parler, on sait comment voilà, réagir l'une et l'autre face aux problèmes. Et il y a des moments où Carole arrive mieux à gérer certaines situations. Des fois, c'est moi qui arrive à mieux gérer. C'est une question d'équilibre et de confiance.
Moi, c'est ce que j'allais dire. En fait, on est très complémentaires, Steph et moi. Tu as dû remarquer Adrien. Stéphanie, c'est la directrice artistique avec ses rêves, avec voilà, les douces, comme le cachemire. Voilà, exactement. Moi, je suis plus... je rentre dans le... Voilà, je suis plus sharp, plus direct, etc. Je suis plus dans la finance, dans la stratégie. Et en fait, on se fait une confiance aveugle. Ça veut dire que moi, la collection, je suis toujours rassurée parce que moi, je sais que Steph, elle va toujours nous sortir des collections de ouf. Même si, bien sûr, j'assiste aux réunions de collection, je vais dire, bah, ça, j'aime plus, j'aime moins. Mais au
final, elle a un avis de consommatrice, voilà, qui est très important aussi.
Mais au final, Steph, je lui fais toujours confiance. Et je pense qu'inversement, Steph, elle me fait super confiance pour diriger, enfin, tenir, enfin, qu'on reste hors de l'eau, que tout roule d'un point de vue finance, d'un point de vue stratégie. Et c'est vrai que le Covid, quand on a dû fermer toutes les boutiques, nous encore, on est quand même une petite marque, on n'a pas des ressources. Je pense que, enfin voilà, Steph, elle m'a laissé gérer les PGE, les banques, le chômage partiel et tout. Ça a été vraiment la panique à bord parce qu'on n'était pas spécialement aidés ou accompagnés. Et puis tu m'as fait confiance. Et puis là, pareil, ça, c'est un peu difficile la reprise. Voilà, il n'y a pas les touristes. C'est pas la folie en ce moment. En plus, il fait 40 degrés, donc c'est parfait pour nous, quoi. Le mois de septembre, ça commence difficile. Mais voilà, moi, j'ai vu la collection en boutique. Elle est sublime. Donc voilà, moi, je sais qu'on va cartonner un peu plus tard dans la saison et qu'on s'en sortira. Mais je pense qu'on a une confiance l'une en l'autre. Voilà, et puis...
Et puis, nos deux backgrounds sont extrêmement complémentaires. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça, on arrive à ce résultat, c'est qu'il y a un échange, une confiance et une vraie expertise des deux côtés.
C'est vrai que vous arrivez, enfin c'est toute la beauté aussi d'entreprendre quand on n'est pas, quand on n'a pas 20 piges, quoi. C'est qu'on a quand même, enfin toutes les deux, vous avez un sacré background, quoi, mine de rien, 10, 12, 15 ans d'expérience dans des trucs très pointus, c'est... Ça aide, quoi.
Bah, c'est sûr que ça aide complètement. Et c'était une des questions que tu nous avais proposées, Adrien. On disait, qu'est-ce qu'on dirait à un petit jeune, etc. Là, je trouve qu'il y a une mode de tous les enfants de mes copines, si je veux dire, les jeunes qui sortent d'études et qui ont fait des fois des super études ou des moins bonnes, veulent tous faire des start-up, veulent tous se lancer. Je pense que c'est une erreur. Vaut mieux aller essuyer les plâtres
chez les autres.
Chez les gros, chez les autres. Exactement. Chez les autres. Apprendre ce qu'il y a de bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Et moi, je dirais qu'il ne faut surtout pas avoir peur de démarrer tout en bas. Vraiment, même si on a fait de très belles études, de hautes études, il ne faut vraiment pas avoir peur de ça.
Il faut connaître tous les métiers.
Exactement.
Et c'est quelque chose que vous... S'il y a quelque chose que vous feriez différemment, vous, dans vos aventures à la fois professionnelles, enfin dans vos carrières professionnelles et dans votre aventure Kuchten, ça serait quoi? Vous ne changerez pas grand-chose, j'ai l'impression.
Moi, je dirais pas grand-chose.
Moi non plus. Je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait avant.
Je suis très fière de ce qu'on a réussi jusqu'à présent.
Le timing était parfait.
C'est une très belle aventure. Le timing était parfait. Voilà, pour le moment, touchons du bois.
Dans votre... alors, vous êtes maman, tu as 4 enfants. Ouais. C'est énorme.
Alors,
toi,
t'en as 2. Moi, j'ai 2 paires de jumeaux.
Ah, t'as...
C'est original.
Elle est gâtée, voilà. Parce que franchement, gérer une boîte et des gosses et son mari et sa vie perso, c'est quand même hardcore. Comment on s'organise quand on est une maman entrepreneuse ou un papa entrepreneur, hein, parce que c'est pas un truc...
Moi, je gère mieux la boîte que mes enfants, personnellement. Je suis très contente du lundi matin d'aller à l'école. Disons que je pense que quand on est maman, on a un petit côté... alors maternaliste, pas paternaliste, avec nos employés, que je trouve qu'on a vraiment chez Kuchten. Alors peut-être parce qu'on est à taille humaine et qu'on n'est pas encore immense, etc. Mais je pense qu'on a un rapport avec nos équipes très maternaliste. On va prendre soin de tout le monde. On va essayer de faire plaisir à tout le monde.
On va les voir souvent. On les contacte et eux nous contactent aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière et c'est vraiment important d'avoir cette proximité avec eux. C'est eux qui nous font les premiers retours de clientes, les premiers ressentis, les premiers problèmes aussi qu'on peut rencontrer. Donc c'est vraiment très très important.
Comment on reste connecté justement à sa cliente ? Parce que quand on a un filtre, alors au tout début, quand tu es toi-même la cliente, bah c'est facile, mais au bout d'un moment, quand tu as plein de gens comme ça qui se mettent entre toi et ta cliente finale, et ça va de la création de la collection jusque le service après-vente, comment on fait en sorte de rester toujours connecté à sa cliente et être obsédé par la cliente ?
Alors déjà,
je participe beaucoup à ce qu'on appelle le merchandising, c'est-à-dire la mise en place des vitrines, l'installation des thèmes de collection, etc. Donc je suis souvent, très souvent en boutique.
En boutique, ouais.
Et donc j'ai souvent un contact direct avec les clientes, même si des fois je préfère ne pas me présenter.
Oui.
Et juste écouter.
Ouais.
Mais effectivement, c'est très important d'être sur le terrain malgré tout. Donc, il faut aussi trouver le temps. Carole, plutôt le week-end.
Ouais, moi, je passe tous les samedis, je tourne dans les boutiques. En fait.
Pour être vraiment retailer, il faut être sur le terrain malgré tout.
En fait,
et
moi,
être au contact des clients.
J'ai une très bonne amie qui travaille au Bon Marché qui m'expliquait que Bernard Arnault passait tous les samedis matin au Bon Marché. J'ai adoré cette anecdote.
Ouais, lui, c'est un fou de retail.
Mais c'est
de
fou, quoi, parce que voilà. Et elle me disait ça, on venait d'un auction. J'ai dit, mais oui, mais bien sûr, quoi. Et en fait, moi, je passe tous les samedis. Enfin, Stéphanie, elle est toutes les semaines. Moi, j'y suis quasiment tous les samedis. Je fais 5-6 boutiques. Alors, pas toujours les mêmes, le dimanche aussi. Je discute avec les clientes, je discute avec les vendeuses. On est très, très. Enfin, il faut jamais perdre le contact, quoi. Ça veut dire que même moi, je vais voir, je vais dire, oh, le merch, là, c'est bizarre, ou pourquoi là, c'est exposé, je vais appeler Stéphanie. Donc, il faut jamais perdre le fil, quoi.
Je trouve que, c'est pas si simple, parce que je trouve que l'exemple de Bernard Arnault est incroyable, parce que quand on a tendance à grandir, on a tendance à s'embourgeoiser un petit peu et à se dire, OK, je me sors de l'opérationnel, etc. Parce que c'est dur comme métier, quand même. On va pas se mentir. Franchement, tenir une boutique, être en contact du client en permanence, c'est excellent, c'est passionnant, mais c'est quand même, physiquement, c'est dur, quoi. Et donc, je trouve que c'est hyper important de se dire, OK, je suis avant tout retailer, je suis avant tout commerçant et mon client, c'est ce que j'ai de plus important dans ma boîte.
Pour moi, c'est ce que j'aime. Je préfère beaucoup plus aller en boutique, discuter avec les clientes, écouter des fois leurs remarques, leurs critiques ou les compliments, plutôt que de gérer les galères au bureau. Enfin, nous, on est des commerçantes dans l'âme. Nous, c'est dans notre ADN. Quoi. Donc moi, au contraire, j'adore aller en boutique. On sent l'euphorie. Et puis voilà, l'achat final, finalement, c'est l'aboutissement d'une année de travail. Voilà, quand la cliente, elle part avec son pull, c'est la production, c'est le voyage en Mongolie, c'est la réalisation, c'est toutes les réunions qu'on a faites, c'est l'étude du prix, de la couleur, etc. Donc finalement, c'est la récompense de notre travail. Elle n'est qu'en boutique. C'est gratifiant, finalement, quand on va en boutique, de voir les clientes, les compliments. Non, c'est très, moi, j'adore. C'est vraiment notre adrénaline. En décembre, nous, on est très saisonniers. Peut-être qu'on en reparlera. Ouais. Mais quand on va en boutique les samedis, en décembre, que c'est la guerre, c'est la folie, quoi. On ressort, j'arrive même pas à dormir le samedi soir, tellement c'est incroyable.
C'est l'excitation totale. Parlons-en de la saisonnalité. Parce que, en été, je pense que vous ne vendez pas beaucoup de cachemire.
Étonnamment, c'est très intéressant parce qu'on a une grosse étiquette de vendeur de cachemire d'hiver, que le cachemire, ça se porte que l'hiver.
Ouais.
Et c'est une notion qui est fausse parce que, effectivement, dans la plupart, en tout cas la parisienne, peut très bien porter le cachemire l'été.
Dis-moi sur 12 au moins.
Voilà. La cliente qui voyage a toujours besoin d'un petit cachemire avec elle, que ce soit dans l'avion ou ailleurs, ou les soirs d'été un peu fraîches, les nuits fraîches, etc. Donc il y a une vraie notion d'éduquer aussi la clientèle en disant ça, vous pourrez le porter même cet été. Donc c'est une notion qui est importante.
Ouais. Mais par contre, l'achat se fait quand même. Alors, c'est sûr que dans le commerce en général, à Noël, les fêtes de fin d'année sont quand même très puissantes, très importantes. Mais globalement, vous, c'est relativement lissé. Alors finalement, pic,
faut pas exagérer.
C'est pas lissé, mais on se rend compte que ça a resté pas mal de saisons un vrai problème, les collections d'été, en disant mais
qu'est-ce qu'on va faire ?
Qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais. Et malgré tout, aujourd'hui, même si c'est assez bien équilibré entre effectivement 100% cachemire, on a introduit des matières mélanges, donc soie et cachemire. On a introduit aussi du lin, donc une matière qui n'est pas faite en Mongolie, mais qui est faite au Portugal, donc en Europe. Et on se rend compte que effectivement, bah, le cachemire reste une bonne partie du chiffre d'affaires sur l'été, malgré tout.
Trop bien. Et justement, comment vous, c'est quoi le rythme de vos collections ? Est-ce que vous êtes en mode une collection par mois, ou quatre par an, ou deux par
non,
an ?
Non, c'est une collection par saison.
Une collection par saison, donc
Donc quatre collections. Ouais. Et on se rend compte que finalement, on est en train de travailler un peu plus dans un module de capsule, parce qu'on est en éternel... recherche tout le temps et pour effectivement être présent et être là au bon moment, bah, il ne faut pas rater le coche et souvent on se rend compte que faire des petites capsules ça permet aussi à la cliente de voir autre chose qu'une collection complète qui arrive
et c'est en fait c'est cette idée de renouveler aussi la vitrine, rafraîchir l'œil,
En fait on a énormément de références donc elles ont toutes donc pour qu'elles soient exposées toutes à un moment ou à un autre, on cherche on change vraiment régulièrement, enfin, on change toutes les semaines les vitrines et le merch, c'est-à-dire que une même cliente elle va venir disons 3 ou 4 fois dans la saison, enfin entre septembre et janvier par exemple, elle aura vraiment l'impression de découvrir des nouvelles pièces, même en décembre au moment des cadeaux de Noël ou peu importe, même si c'est pour elle, elle verra vraiment des produits qu'elle a pas vus avant, elle dit, ah mais j'avais pas vu, etc. Donc on propose tout le temps, il y aura toujours de la nouveauté en fait, on met pas tout le 1er septembre et advienne que pourra, quoi. Il y a un énorme travail de proposition.
Mais ça veut dire qu'il y a une logistique derrière qui est assez costaud quand même. C'est peut-être pas le sujet le plus glamour quand on parle d'une marque de mode, mais c'est quand même un des sujets les plus importants finalement. Comment vous gérez cet approvisionnement continu
Alors on va relancer des capsules ou des réassorts que s'il y a de la disponibilité. On ne va pas reteindre. On fait quand même aussi très attention à ne pas non plus faire des quantités astronomiques, mais juste répondre à une demande, ne jamais être vraiment en pénurie. Si tout d'un coup un modèle s'est extrêmement bien vendu en début de saison...
C'est dommage de ne pas l'avoir enfin.
C'est dommage de ne pas l'avoir. Maintenant, c'est vrai qu'on fait extrêmement attention aux quantités, qu'il est arrivé qu'il y ait certaines références soient fabriquées en petite série. C'est aussi ce qui permet aussi d'expliquer aux clients
la rareté,
pas l'exclusivité, mais voilà, prenez-le maintenant parce que bientôt, il n'y en aura plus.
Ouais. Mais ceci dit, Adrien, tu as raison sur un point, c'est que la fonction logistique... qu'on a un peu sous-estimé au début parce qu'on ne connaissait pas, je crois que c'est la fonction la plus importante en fait de la société.
Ouais.
C'est clé. Avoir les réassorts au moment des achats, analyser ce qu'on a vendu les saisons précédentes pour ne pas manquer, faire en sorte que l'entrepôt, enfin voilà, les boutiques soient réassorties dès que c'est vendu. La logistique, c'est aussi de plus en plus crucial dans les commandes web, puisque le web prend de plus en plus de force, pouvoir faire les envois en temps et en heure rapidement. Donc, un de nos gros postes d'investissement, alors là, qui ne se matérialise pas non plus tout de suite en chiffre d'affaires, c'est à l'entrepôt. Voilà, gérer notre logistique, avoir les bons ERP, les bons logiciels, les bonnes personnes pour analyser les ventes, etc. Enfin, toute cette fonction-là, elle est clé. Et je crois que c'est vraiment un métier d'avenir, moi, en fait. Enfin, d'avenir, ce n'est pas une start-up ou quoi, mais voilà, gérer ses appros, gérer ses achats, ce sont des fonctions clés d'une société.
Et vous, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est responsable de ça ?
Alors voilà, on a embauché justement grâce à la levée de fonds de l'année dernière, on a embauché une responsable logistique, effectivement, et on commence vraiment à voir les résultats, justement, elle nous sort beaucoup plus de statistiques, finalement, sur les achats, elle est plus data analyst, il y a beaucoup plus de rotation de stock, s'il y a un produit qui ne se vend pas dans la boutique de Londres, on ne va pas s'en rendre compte au bout de 3 mois, il ne va pas dormir dans un coin alors que par exemple on est sold out dans une boutique parisienne, donc elle va faire des rotations de stock beaucoup plus rapides, et ça, faire tourner les stocks, c'est vraiment clé dans le chiffre d'affaires également.
Trop bien, logistique, c'est moins ta partie, Stéphanie.
Un peu moins.
Ouais. Mais je trouve que c'est passionnant aussi la logistique. Ben, ça fait quand même 1h20 qu'on est ensemble, hein. On dirait ça passe vite. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, qu'on aurait dû aborder ?
écoute, on a pas mal.
Je crois qu'on a parlé un peu de tout.
On a fait le tour.
On a fait le tour. Hein.
Ouais. Qu'est-ce que... Non, j'ai mes deux, trois petites questions de la fin que j'aime bien poser. Ça vous intéresse? non, laquelle je pourrais prendre Non, mais ben, qu'est-ce que... Je crois qu'on a vu quand même pas mal de choses. Ce que vous voulez faire... Ah si, il y a une question que je me posais tout à l'heure, c'était... est-ce que c'est important de... Pourquoi c'est important pour vous de grossir, de grandir, de grossir? Pourquoi c'est... Est-ce que c'est une nécessité financièrement? Est-ce que c'est un kiff pour, de se dire, ok, bah, je suis une marque internationale? Est-ce que c'est... ouais, ou est-ce que vous... Pourquoi vous avez besoin de grossir?
Je pense que c'est pas vraiment une finalité en soi, mais en tout cas c'est un rêve de se dire bah waouh, c'est une consécration, même si moi je suis extrêmement ravie du succès que rencontre Kuchten aujourd'hui. Je serais ravie de faire découvrir en tout cas notre travail à d'autres pays, à d'autres cultures, à d'autres femmes, et c'est surtout ça, voilà, mon rêve.
Et toi?
Bon, moi je suis plus financière, donc maintenant j'ai des investisseurs, ils préfèrent grossir effectivement. Je pense que oui, c'est malgré tout, ça reste un investissement, c'est un pari qu'on a pris sur notre vie professionnelle. Et grossir effectivement en soi, c'est pas grossir pour grossir, c'est se prouver à soi-même qu'on a atteint ses rêves, ses objectifs, qu'on a pris la bonne décision, parce que moi en quittant la finance, j'avais quand même un boulevard, c'était plus facile, que finalement nos risques payent. Mais je pense que Stéphanie a raison, quand je te disais la finalité de voir la cliente qui achète en boutique, de voir quand on croise des gens qu'on ne connaît pas, qui porte un pull Kuchten, quand moi je suis en vacances, je ne sais pas où, et que je vois une cliente.
C'est nous.
Bon, il y a de l'ego quand même, hein, mine de rien. On fait ça pour se faire plaisir, mais il y a une vraie fierté quand on voit nos créations portées aux quatre coins du monde, quoi. Alors, plutôt de la France pour le moment, mais c'est vrai que, on est créateur, il y a une vraie fierté.
Ouais. Bien sûr. Deux dernières questions. La première, c'est qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast? Et je vous laisse le temps de réfléchir. Peut-être que vous y avez déjà réfléchi un petit peu. Il y a une question aussi que je pose maintenant systématiquement à tout le monde. C'est très personnel. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais c'est... vous savez, j'ai une marque.
Bien sûr.
et je demande à mes invités, est-ce que vous pouvez me donner un conseil sur cette marque? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez bien ou moins bien, qui vous choquent? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder.
Moi, je pense que... Non, je ne me permettrai pas de te donner conseil parce que moi, je n'aurais pas ça. Mais comme on a dit, je pense que tu commences et il ne faut pas lésiner sur les moyens, malheureusement.
Ouais.
Parce que c'est la financière qui va te parler, mais il faut investir pour récolter. En fait, à moins d'avoir l'idée de génie et ça va partir en une seconde, je pense qu'il ne faut pas avoir peur...
De prendre des risques,
Des risques, exactement, et d'investir. Et
investir dans quoi? Dans la prod,
dans le contenu, surtout.
Dans le contenu.
Travailler vraiment le contenu.
Travailler le contenu, travailler l'histoire.
Même si je trouve que tu te débrouilles pas trop mal en contenu, malgré tout, je trouve qu'il y a une belle visibilité. Et moi, le conseil, je dirais aussi de maintenir un beau grade de qualité. Ça reste important.
Du produit, tu veux dire?
De produit, bien sûr.
Ouais, d'accord. Trop bien. Et alors, qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast?
Un invité Bernard surprise. Arnaud. Bernard Arnaud, bien évidemment.
Bernard.
Bernard.
Je nous souhaite. Peut-être qu'il nous rachètera un jour.
Ouais. Et qu'est-ce que vous lui poseriez comme question à Bernard Arnaud?
Bernard, je lui demanderais qu'est-ce qu'on fait pour devenir une marque de luxe? Finalement, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu passes à un moment du luxe abordable au vrai luxe, finalement? Qu'est-ce qui fait que Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le positionnement?
Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'il a réussi, lui, à... J'ai l'impression que c'est quand même... LVMH, c'est beaucoup de marques héritage qui étaient déjà des marques de luxe et qu'il a rafraîchi. Parce que des marques... Une marque crée l'affaire de devenir
Céline,
une marque de luxe.
C'était pas, tu vois, ça ouais, existait déjà.
Céline, non. Mais moi, je parle par exemple Fenty.
Ouais.
C'est une marque créée de toutes pièces par le groupe LVMH.
Ouais.
Donc, ça peut être le seul exemple parce que finalement, comme tu dis, c'était des marques établies
qui existaient à une époque, quoi.
Qui existaient.
Qui étaient peut-être mortes complètement. Il restait plus que la marque, mais finalement, il y avait l'héritage.
Et sa force a été là, je trouve.
Ouais. Cette capacité à rafraîchir les marques, quand même. Mais ouais, franchement, parce que même Fenty, bon, je pense que c'est un...
C'est pas vraiment luxe, mais c'est vrai que c'est plus Rihanna.
Mais c'est un succès, je sais pas d'ailleurs quelle est l'envergure du succès, et si c'est si simple que ça, mais c'est vrai que, ouais, je sais pas. En tout cas, Bernard, si tu nous écoutes...
Voilà, pense à nous.
je vais t'envoyer...
Passe-nous dire bonjour sur le corner du Bon Marché.
Je vais t'envoyer un email.
Et on croisera sur le corner
voilà,
du Bon
exactement.
Marché.
Voilà, exactement.
C'est clair. Bah, merci en tout cas. Moi, je suis hyper content de vous avoir rencontré, d'avoir
merci
échangé et d'avoir découvert plus en détail Kuchten, parce que je trouve que c'est une super belle aventure. Bravo à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt. Salut.
À bientôt.
Merci.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.